Chers camarades, chers amis, travailleuses, travailleurs. Je suis très heureuse de me retrouver parmi vous à l'occasion de cette fête. J'espère que vous passez un bon moment. Comme vous le savez, cette fête, nos fêtes, sont aussi l'occasion pour nous de discuter des problèmes politiques et sociaux. Rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de l'affaire Strauss-Kahn. Non. Bon, elle s'est transformée en véritable feuilleton médiatique. Je pense qu'on va y avoir droit tout l'été et même au-delà. Mais tout ça, c'est loin. C'est très très loin des difficultés de notre vie quotidienne. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de parler des problèmes du monde du travail. Et des problèmes, eh bien, on peut dire qu'il y en a. En premier lieu, il y a bien sûr le problème du chômage. C'est certainement le fléau le plus grave. Alors c'est un drame, avant tout pour ceux qui ont perdu leur emploi et qui n'en retrouvent plus, et pour leur famille. Mais tous les travailleurs savent aujourd'hui qu'ils sont des licenciés en puissance. Pour les patrons, les travailleurs ne sont qu'un facteur de production dont ils peuvent se débarrasser du jour au lendemain, comme les machines, comme les murs ou comme les pièces de rechange. La menace du chômage pèse aussi sur le rapport de force entre patrons et travailleurs, car les patrons s'en servent pour imposer des cadences et des charges de travail de plus en plus démentes. Et puis le chômage pèse d'une multitude d'autres façons sur l'ensemble de la vie sociale. Il pèse sur les jeunes, obligés de galérer parfois pendant des années avant de trouver un emploi. Il pèse sur la vie sociale dans les quartiers pauvres. Et il est à la base de cette insécurité dont on nous rebat les oreilles, comme si c'était un phénomène indépendant du reste, comme si ce n'était pas la conséquence directe de l'appauvrissement général. Le chômage est une des raisons essentielles du recul de la vie sociale. Un ouvrier, un employé qui se retrouve au chômage, et surtout s'il y reste longtemps, comme c'est de plus en plus le cas, a le sentiment d'être seul face à son malheur. Eh bien, nous avons à leur dire, à leur répéter que ce n'est pas un malheur individuel et qu'ils n'en sont pas responsables. Le responsable en est le patronat, qui pour augmenter ses profits s'efforce en permanence de faire produire toujours plus avec toujours moins de monde. La cause en est l'économie capitaliste elle-même et son fonctionnement débile, qui écarte de la production des millions de femmes et d'hommes qui ne demandent qu'à travailler et qui devraient pouvoir le faire, alors qu'il y a tant de besoins élémentaires qui ne sont pas satisfaits. Alors oui, le chômage est un problème collectif, notre problème à nous tous, et c'est collectivement qu'il faudra le combattre. Pour ceux qui ont un salaire pour vivre, eh bien la vie devient de plus en plus difficile. Parce que tout a augmenté. Le loyer, le gaz, l'électricité, les mutuelles, les assurances, le carburant, tout augmente. De 4, 5, 10, 20% pour le gaz cette année. Mais qui, parmi nous, a vu son salaire, sa pension de retraite ou ses allocations augmenter à ce rythme? Personne. Alors il faut jongler avec les factures, avec les impayés, avec les dettes. Même les prix de l'alimentation ont bondi. Pour un billet de 20 euros, on met de moins en moins de choses dans le caddie. Acheter de la viande, du fromage, de bons fruits est devenu hors de prix. Et ce ne sont pas les producteurs ou les petits agriculteurs qui profitent de ces hausses de prix. Ce sont les distributeurs et les industriels de l'agroalimentaire qui prennent des marges de plus en plus importantes. Au point que le kilo de pommes, payé 40 centimes au producteur, est vendu 2,40 euros en magasin. Au point que la cerise peut être vendue 4 à 5 fois plus qu'elle n'est payée au producteur. Le secteur de l'agroalimentaire est à l'image de toute l'économie capitaliste. Les mastodontes de l'agroalimentaire et de la distribution dictent leurs conditions aux petits producteurs, comme les grands groupes industriels, ceux de l'automobile par exemple. Ceux comme Michelin dictent leurs conditions aux sous-traitants et à leurs plus petits fournisseurs. Les plus petits se font écraser par les plus gros et au bout du bout, Eh bien, il y a le travailleur, l'employé, l'ouvrier que l'on pressure pour que chacun puisse faire son profit. Que ce soit dans les grandes entreprises ou dans les plus petites, et que ce soit même dans la fonction publique, eh bien, c'est tous les jours qu'il faut résister aux augmentations de cadence ou aux augmentations de la charge de travail. C'est tous les jours qu'il faut se battre simplement pour que le droit à la pause soit respecté, pour que les heures supplémentaires soient payées, pour que les accidents du travail soient déclarés comme tels, ou pour que les maladies professionnelles soient reconnues aussi comme telles. Et c'est tous les jours qu'il faut se battre pour que l'apprenti, pour que l'intérimaire puisse être embauché. Eh bien, ça, c'est la lutte de classe, c'est la guerre de classe. Ce sont peut-être de vieux mots, mais il n'y en a pas d'autres. Et là-dessus, le gouvernement ose nous dire qu'il va falloir faire des sacrifices pour rembourser la dette. Il faut réduire le nombre d'instituteurs, d'enseignants, parce qu'on est endetté. Il faut faire des économies sur la santé et réduire le personnel hospitalier parce qu'on est endetté. Il faut accepter de reporter l'âge de la retraite parce qu'on est endetté. Mais qui a fait cette dette? Qui a creusé ces déficits? C'est vous? C'est moi? Eh bien non, aucun travailleur n'en a vu la couleur de cet argent. Mais souvenez-vous, des dizaines, des centaines de milliards que l'État a mis à la disposition de messieurs les banquiers. Souvenez-vous des cadeaux faits aux industriels de l'automobile. Et ça s'est rajouté aux milliards d'aides et d'exonérations en tout genre auxquelles les capitalistes ont droit en permanence. Et le pire, c'est que ça continue. Cette semaine, on a vu le gouvernement se vanter du grand emprunt de 35 milliards. C'était très élégamment présenté, 35 milliards pour des investissements d'avenir. Mais il ne s'agit pas de construire les logements qui manquent cruellement. Il ne s'agit pas de développer les transports en commun ou de construire des hôpitaux. Non, il s'agit de mettre de l'argent là où les entreprises le veulent, dans leurs projets, pour leurs recherches et pour leurs profits futurs. Investir. Voilà le seul boulot que les capitalistes sont censés faire. C'est quand même en vertu des capitaux qu'ils ont investis que les capitalistes s'arrogent le droit d'empocher les bénéfices. Eh bien, même ça, ils ne veulent plus le faire. Ils demandent à l'État de le faire à leur place. Alors oui, les capitalistes de l'industrie, de la distribution, comme les capitalistes de la finance, sont des parasites qui veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils n'en ont jamais assez. Pour aspirer toutes les richesses produites, ils sont prêts à faire reculer l'ensemble du monde du travail et toute la société des années en arrière. Eh bien, plus que tous nos discours, ce sont eux, avec leur rapacité, leur cynisme, qui fera exploser la colère du monde du travail. Sarkozy n'a pas volé la haine qu'il suscite dans les classes populaires. Mais il applique la politique de ceux qui dominent l'économie, la politique de la bourgeoisie, des actionnaires, des capitalistes. Pour les grands bourgeois, Sarkozy et les autres responsables politiques font partie de leur petit personnel. Et à l'occasion, ils leur versent quelques pourboires. Car les vrais maîtres de la société et de la politique, eh bien ce sont eux, les Peugeot, les Bouygues, les Arnaud, les Michelin, les Bolloré. Prenez l'affaire du Mediator. Regardez comment le groupe Servier, qui commercialisait ce poison, a su acheter, avec sa puissance financière et économique, la complicité des experts médicaux. Il a mis de son côté l'administration sanitaire, tous les ministres de la Santé et la Sécurité sociale aussi, qui a remboursé jusqu'à la fin ce poison mortel, ce qui a coûté à la Sécurité sociale, ce qui nous a coûté 1,2 milliard. Alors oui, les capitalistes, avec leur fortune, et de par le pouvoir économique qu'ils représentent, ils ont l'appareil d'État, les rouages de l'administration et le gouvernement à leurs bottes. Et c'est vrai pour toutes les grandes fortunes, c'est vrai pour tous les hommes d'affaires. Ce sont eux qui imposent la politique au gouvernement. Et ils ne le cachent même plus. Une poignée de financiers, En fait, une douzaine de grandes banques, dont la BNP Paribas, la Société Générale, dictent aujourd'hui à la Grèce, à l'Irlande, au Portugal, la politique qu'ils doivent mener. Ils les ont forcés à augmenter la TVA. Ils ont décidé de la baisse des pensions des retraités. Ils ont programmé les suppressions d'emplois dans la fonction publique, des privatisations à tout va. Ces financiers viennent d'imposer que les Grecs, qui ont déjà payé très cher pour la spéculation financière, se serrent encore la ceinture. Mais qui a élu ces gens-là? Qui même les connaît? Il n'y a pas d'élection pour les choisir. On nous incite à aller voter. On nous répète que la population est souveraine, que c'est elle qui décide. Mais en fait, on ne vote que pour les sous-fifres. Alors, eh bien, il faut revendiquer qu'on vote aussi pour ceux qui dirigent les grandes entreprises, qu'on vote pour ceux qui dirigent aujourd'hui les grandes banques et les grandes institutions financières, et qu'on élise aussi tous ces hauts fonctionnaires qui sont inamovibles et qui assurent la continuité politique pendant que les ministres se succèdent. Les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, les uns comme les autres, du Parti Socialiste au Front National, en passant par le Front de Gauche, vont nous faire croire qu'en votant pour eux en 2012, tout peut changer. Eh bien, ce sont tous des menteurs. Parce que même si nous avons la satisfaction de nous débarrasser de Sarkozy, eh bien nous aurons toujours ce grand patronat, ces mêmes capitalistes avides, insatiable. Que ce soit un gouvernement de gauche ou de droite qui sorte de l'élection de 2012, le grand patronat continuera de dicter sa politique. Il continuera de vider les caisses de l'État pour son propre compte. Il continuera d'exploiter les travailleurs au nom de la loi sacro-sainte du profit. Et aucun des candidats à la présidentielle, du Parti Socialiste au Front National en passant par le Front de Gauche, ne s'y opposera. Parce qu'ils se placent tous sur le terrain de l'organisation capitaliste de la société. Ils considèrent tous qu'il appartient aux riches, aux possesseurs de capitaux, de dominer l'économie. Ils considèrent tous que la santé de l'économie se mesure au profit. Ils considèrent tous que la propriété privée des usines, des banques, des grandes entreprises, des chaînes commerciales est intangible, pour ainsi dire, une loi de la nature qu'on ne peut pas, qu'on ne doit pas contester. Alors, pour se faire élire, ces partis qui ont des électorats différents tiennent des discours différents. Ils peuvent même être porteurs de politiques quelque peu différentes. Mais ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas toucher au pouvoir de la grande bourgeoisie. Et c'est vrai en premier lieu pour le Parti Socialiste. Et ce, quels que soient les candidats à la primaire. Ni Hollande, ni Aubry, ni Royal, ni même Montebourg, qui se targue être l'aile gauche du Parti Socialiste, ne s'engage, s'il est élu, à augmenter les salaires. Les actionnaires du CAC 40, cette année, vont encaisser 40 milliards de bénéfices. Mais il n'y en a pas un dans le Parti Socialiste pour dire que oui, il y a l'argent pour augmenter les salaires. Quant à imaginer que revenus au pouvoir, ils empêcheront le patronat de licencier et de fermer des usines, ou qu'ils le forceront à embaucher des jeunes, eh bien ça c'est du domaine du rêve. Les candidats socialistes ne s'engagent que vis-à-vis des banquiers. Ils s'engagent à être de bons gestionnaires et à réduire la dette. Oh, ils dénoncent la politique du gouvernement Sarkozy-Fillon. Et en effet, ce gouvernement a beaucoup détruit. Dans l'éducation, dans la santé, comme dans les autres services publics. Au cours de son mandat, 200 000 à 400 000 postes auront été supprimés dans la fonction publique. Mais est-ce que le Parti Socialiste prévoit dans son programme de les rétablir? Eh bien non. Aujourd'hui, dans l'opposition, le Parti Socialiste ne s'engage même pas à reconstruire ce que Sarkozy a démoli. Alors qu'est-ce que ce sera au pouvoir? Et ne vous y trompez pas, C'est à eux que Jean-Luc Mélenchon et le Front de Gauche veulent accrocher leur char. Eh bien, ce sera sans nous. On nous balade d'élection en élection en faisant croire qu'on peut changer notre sort en changeant tout simplement le bulletin que l'on met dans l'urne. Mais combien de travailleurs ont placé leurs espoirs dans Mitterrand, qui promettait de changer la vie? Et combien parmi eux se sont ensuite sentis abandonnés, trahis par ce gouvernement qui a fini par se comporter comme n'importe quel patron, en bloquant les salaires, en licenciant à tour de bras dans la sidérurgie et en plébiscitant la bourse? Combien se sont raccrochés ensuite à la gauche plurielle de Jospin en se disant que ce serait moins pire que la droite? Et combien parmi eux ont été déçus et déboussolés parce que le gouvernement Jospin a plus privatisé que les gouvernements Juppé et Balladur réunis? Alors, les travailleurs et les plus pauvres ont appris à leurs dépens que l'arrivée de la gauche au pouvoir ne changeait rien pour eux et que l'alternance entre la gauche et la droite n'est qu'une duperie. Certains, et c'est la grande majorité, se disent que cela ne sert plus à rien d'aller voter. Mais, parmi les plus amers et les plus désorientés, il y a aussi ceux qui sont tentés par le Front National. On les a tous essayés, sauf elle, disent-ils. Mais ils se trompent. Parce qu'avec Sarkozy au pouvoir, on l'a eu, la politique de la droite extrême. Marine Le Pen n'est pas au gouvernement, mais une partie de sa politique y est. Sarkozy et Le Pen se partagent d'ailleurs un seul et même électorat. Comme Sarkozy, Le Pen représente le camp de la réaction. Le noyau dur de son électorat, ce sont les milieux conservateurs, calotins, hostiles depuis toujours aux travailleurs. Ce sont ces milieux traditionnellement de droite, hostiles. Ce sont ces milieux, traditionnellement de droite, qui trouvent que les ouvriers ne travaillent jamais assez. Vous pensez bien, 35 heures, c'est pas beaucoup, disent-ils. Eux, ils travaillent 45, 50 heures par semaine. Ce sont ceux qui ne supportent pas que les travailleurs revendiquent et fassent grève. C'est eux qui accusent les chômeurs, les gens qui touchent le RSA, les jeunes sans travail, de vivre au crochet de la société. Alors il faut dire à tous ceux parmi les plus pauvres qui seraient tentés par le vote Front National, ne mêlez pas vos voix à ces gens-là. Ce sera la politique de Sarkozy, en pire. Comme Sarkozy, le Front National est un défenseur des riches, un défenseur de la propriété, un défenseur de la société telle qu'elle est, avec l'exploitation capitaliste, avec ses inégalités, avec ses injustices. Au lieu de dénoncer la classe capitaliste, ceux qui vivent de l'exploitation, de leur rente, ceux qui sont responsables du chômage parce qu'ils licencient, le Front National jette en pâture les travailleurs immigrés, nos frères. Le Front National affaiblit les travailleurs et elle les divise. Eh bien, rien que cela fait de Marine Le Pen une ennemie mortelle pour la classe ouvrière. Ils nous amusent tous avec les élections. Et Marine Le Pen compris. Mais ce ne sont pas les élections qui mettront fin à l'exploitation. Pour mettre fin à l'exploitation, il faut relever le drapeau de la lutte de classe. Et il faudra de grandes luttes qui remettent en cause le droit qu'a une minorité, parce qu'elle a de l'argent, de décider de tout, de l'avenir de la planète, de l'avenir de l'humanité. Il y a eu toute une période où cette conscience de classe était largement partagée dans le monde du travail. Une partie importante des travailleurs se disait fièrement socialiste ou communiste et militait au Parti communiste ou dans les syndicats. Et cela ne voulait pas dire seulement qu'ils votaient pour les socialistes ou pour les communistes aux élections. Cela voulait dire qu'ils avaient un idéal, qu'il défendait l'idée d'une société sans exploitation, sans propriété privée des usines, sans la loi du profit. Et ces idées, eh bien, elles se diffusaient dans la classe ouvrière, qui était fière de ce qu'elle était, fière de faire tourner toute l'économie, et consciente aussi d'être à l'avant-garde des combats qui faisaient progresser toute la société. Autant dire qu'alors, les divagations du Front National n'avaient aucune prise. Mais cette conscience de classe, eh bien, elle a reculé. C'est une évolution de longue date, où le Parti Socialiste d'abord et le Parti Communiste ensuite se sont laissés gangréner par le réformisme, ce qui les a amenés jusqu'à réprimer, y compris férocement, les luttes de la classe ouvrière. Et puis, il y a eu cette plaie du stalinisme qui a dénaturé l'idéal communiste. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons les seuls à défendre l'idée de la transformation profonde de la société, l'idée de la révolution et du communisme. Alors nous devons faire en sorte que cette perspective reste vivante, quelle que soit la situation. L'élection présidentielle et les législatives qui viennent nous donnent l'occasion de populariser ces idées. Le Parti communiste ayant renoncé à présenter son candidat au profit de Mélenchon, je serai la seule candidate à me revendiquer du communisme. Eh bien, je ne m'en... je le ferai. Donc je défendrai plus largement à la radio, à la télévision, les mêmes idées que je vous ai présentées là. Comme nous le faisons en militant tous les jours dans les entreprises et dans les quartiers, je défendrai non pas un programme électoral, mais un programme de lutte pour les travailleurs. Et c'est pour cela que je commencerai mes discours comme Arlette Laguiller le faisait toujours, en disant « travailleuse, travailleur ». Nous dirons et redirons que oui, on peut s'attaquer aux deux catastrophes qui frappent les travailleurs, le chômage et les bas salaires. Puisque la classe capitaliste est incapable de mettre fin au chômage, eh bien il faut lui imposer, par la puissance du mouvement des masses, l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous sans diminution de salaire. Cela coûtera de l'argent à la bourgeoisie, ça oui, mais de l'argent, elle en a. Face aux hausses de prix et à la chute du pouvoir d'achat qu'elles entraînent, eh bien, il faut imposer l'indexation des salaires et des pensions sur les hausses de prix, c'est-à-dire l'échelle mobile des salaires et des pensions. Face aux exigences des banques de rembourser la dette avec les intérêts, il faut imposer l'expropriation des banquiers, leur unification en une seule banque sous le contrôle de la population. Et par-dessus tout, pour empêcher que les patrons puissent préparer, parfois des années à l'avance, leurs mauvais coups contre les travailleurs, il faut lever le secret industriel et le secret bancaire et donner aux travailleurs, à la population, les moyens légaux de contrôler ce qui se passe dans les entreprises, de contrôler les comptes, les marges, les bénéfices. La classe capitaliste est une classe irresponsable, dangereuse pour toute la société. Le seul moyen de l'empêcher de nuire, c'est de soumettre sa gestion au contrôle de la population. Mais pour cela, vous l'avez compris, il faudra des luttes puissantes. Mais ces luttes, eh bien, elles peuvent éclater sans que l'on s'y attende, comme ce fut le cas pour les révoltes du monde arabe. Alors, quand nous parlons d'explosion sociale, nous ne rêvons pas. Une telle situation, explosive, imprévisible, où des millions de travailleurs se mettent en mouvement, voilà ce que la bourgeoisie craint plus que tout. Et voilà ce que nous, nous souhaitons. Parce que c'est la seule façon d'arrêter les coups portés à la classe ouvrière. Et puis, nous le souhaitons parce que c'est lorsque la mobilisation s'élargit et s'approfondit, que les travailleurs peuvent apprendre à diriger eux-mêmes leur lutte et qu'ils peuvent découvrir qu'ils sont non seulement capables de cela, mais qu'ils peuvent aussi diriger la société, et bien mieux que les capitalistes. Et nous pensons, en tant que communistes révolutionnaires, que les travailleurs pourront alors faire des choses grandioses, exproprier la bourgeoisie, débarrasser la société de l'exploitation et de ses exploiteurs, et fonder une société où les travailleurs, ensemble, dirigeraient l'économie, non pas pour qu'elle enrichisse une minorité, mais pour qu'elle réponde aux besoins de tous. Voilà, j'en ai fini, camarades.